RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble nous recevons Olga Givernet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée ensemble pour la République et ancienne ministre déléguée à l'énergie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors à l'Assemblée nationale, hier et ce mardi, les députés ont débattu du décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Est-ce que c'est le nucléaire, en quelque sorte, qui en sera la colonne vertébrale, c'est-à-dire plus de nucléaire ?
Alors non, on reste sur les quatre piliers annoncés par le président de la République au moment de son discours de Belfort en 2022, c'est-à-dire les énergies renouvelables et le nucléaire, et également la sobriété et l'efficacité. Donc tout cela, c'est un mix énergétique qui doit nous permettre de sortir des énergies fossiles. Il faut savoir qu'on a encore 60% de notre consommation qui est à base d'hydrocarbures. Et donc, il faut pouvoir en sortir et utiliser notre énergie décarbonée. D'ailleurs, on est le bon élève. Hein. L'électricité est décarbonée à 95% dans sa production en France. Il faut l'utiliser. On est très fiers. On a pu l'exporter en 2024. Mais ce serait quand même mieux qu'on puisse transférer les usages, notamment dans le transport, mais aussi dans l'industrie.
On pourrait se dire qu'avec un parti qui s'appelle EPR... Vous pourriez donner la priorité au nucléaire, EPR comme oui. Flamanville. Boutade à part, vous disiez hier à l'Assemblée nationale à l'occasion du débat sur la souveraineté énergétique de la France, je vais vous citer, « Soyons tous lucides sur les années d'errance qui ont étouffé la politique énergétique de la France ». De quelles années parlez-vous et est-ce que vous pouvez nommer des responsables ?
Alors les années où en fait on a abandonné le nucléaire.
Mais c'est-à-dire quelles années ?
C'était les années où la gauche était au pouvoir et il y a eu le démantèlement de la centrale de Fessenheim avec le fait en fait d'avoir retiré les compétences et la maintenance.
C'est Emmanuel Macron qui l'a fermé.
Oui, mais parce que c'était une continuité. Au bout d'un moment, quand vous avez un outil qui n'est plus entretenu, il faut le fermer. Sauf qu'on s'est bien rendu compte que c'était quand même une bêtise. D'ailleurs, la centrale du Bugey dans mon département était la suivante qui devait voir des réacteurs fermés. Nous, avec les élus des territoires, on s'est mis ensemble pour aller prôner, justement, en se disant il nous faut une visibilité sur ces outils de production. Et c'est là où on a pu décrocher les nouveaux EPR2, donc les nouveaux réacteurs.
Est-ce que l'Allemagne a une responsabilité dans l'affaiblissement de la filière nucléaire ?
Alors, je crois que l'Allemagne a pris une orientation très différente. Et contrairement à nous, elle n'est pas encore revenue, ou en tout cas, elle est peut-être juste en train de se poser la question. Mais effectivement, d'avoir que du renouvelable pour et compenser avec des énergies fossiles, ce n'est pas un modèle qui est viable. Nous avons du renouvelable et nous avons également le nucléaire qui est pilotable et qui vient permettre en complémentarité, justement, d'avoir un réseau stable en électricité.
Oui, mais la question de Roselyne, c'était est-ce que l'Allemagne a une responsabilité dans l'affaiblissement de la filière nucléaire française ? Beaucoup le disent, un certain nombre d'anciens dirigeants d'EDF disent que l'Allemagne a tout fait pour planter le nucléaire français parce que l'énergie peu chère que nous avions grâce à ce dispositif, ça les irritait un peu.
L'Allemagne a très certainement joué toute sa part au niveau européen pour dégrader le nucléaire. Il y a une alliance du nucléaire qui a été mise en place avec Agnès Pannier-Runacher il y a de ça plusieurs années pour justement remonter la filière. Mais effectivement, l'Allemagne était partie sur autre chose. Et comme nous avons des réseaux interconnectés, eh bien, ça a pu peser sur la disponibilité de l'électricité. Mais là, on est vraiment sur l'électricité. Il faut savoir que l'énergie et bien d'autres sont impactés.
Quels sont les avantages des énergies renouvelables ? Donc, le solaire, l'éolien, la géothermie, enfin, toutes les énergies renouvelables par rapport au nucléaire ?
Alors, c'est des énergies qui sont moins chères et des moins infrastructures qui sont moins longues à mettre en œuvre. On compte sur les énergies renouvelables là pour pallier à court terme sur nos futurs besoins en électricité notamment, mais effectivement, il n'y a pas que l'électricité, il y a tout ce qui est chaleur renouvelable, il y a tout ce qui est biogaz, et il faut avoir Moi, je dis, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mmh. On a vu au travers de crise, dès que même il y a un blackout, on l'a vu en Espagne sur l'électricité, il y a vraiment des problèmes. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir un panel et un mix énergétique qui sont adaptés au territoire. Chez moi, j'ai des montagnes, on a des barrages hydroélectriques. Pour ceux qui ont un front de mer, eh bien, ce sera de l'éolien en mer.
Justement,
éoliennes... C'est des coûts au mégawattheure qui sont bien moindres par rapport au nouveau nucléaire, sachant que notre nucléaire de base, lui-même, est amorti.
Les éoliennes, les Français n'en veulent pas, pour la plupart. Et l'opposition, enfin, quand on voit le Rassemblement national est contre, les Républicains n'en veulent pas non plus. Et selon l'expression anglo-saxonne, les éoliennes, c'est bien, mais not in my garden.
Oui, alors c'est effectivement, il y a une acceptabilité. Moi, je dis que l'énergie se dessine dans les territoires. C'est un paysage qu'il faut accepter. Il faut être fier d'être une vraie nation de l'énergie. Et ça veut dire qu'il faut avoir des infrastructures industrielles qui soient capables de produire. Il y a déjà des éoliennes, on le voit, le long des routes et notamment des autoroutes. Il y a parfois même des élus qui portent eux-mêmes des projets d'éoliens. Il y a un retour aussi pour les habitants financiers pour aider à payer leurs factures d'énergie. Donc c'est du gagnant-gagnant. Je crois qu'il faut bien prendre en compte. Et simplement, je souligne également une autre initiative, c'est-à-dire les zones d'accélération des énergies renouvelables. Il a été demandé aux communes de signaler les zones sur lesquelles elles pourraient implanter soit du photovoltaïque ou de l'éolien. On a plus de 10 000 communes qui ont fait ce mapping pour identifier pour les opérateurs ces lieux.
Alors, vous disiez que les énergies renouvelables coûtent moins cher que le nucléaire, mais est-ce qu'on prend en compte dans ce raisonnement la durée de vie des équipements? C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire, c'est 50, 60 ans, c'est de cet ordre-là. Des éoliennes en mer, est-ce qu'on sait combien de temps elles vont tenir?
Oui, alors c'est effectivement moins longtemps, mais c'est un investissement qui est moins important.
Et il y a le raccordement.
Il y a le coût de raccordement.
Qui coûte très cher,
Et qui est le coût de raccordement et du réseau de manière
raccordement,
générale.
Raccordement, donc de la mer à la terre.
Bien sûr. Et en fonction, si on a de l'éolien en mer qui est posé ou de l'éolien en mer qui est flottant, qui est encore une autre technologie, c'est encore des coûts différents. Donc oui, tout cela est pris en compte. Il faut être le plus efficace possible. C'est de l'argent public. Et donc, il faut montrer aux Français que tout cela vient dans un investissement de long terme, et ce que j'appelle la durabilité, mais finalement le cycle de vie de nos infrastructures est bien sûr pris en compte. Il faut qu'on mette aussi en place des filières de recyclage, c'est ce que je demande également, ce qu'on appelle les REP, de responsabilité des producteurs, sur notamment les pales d'éoliennes, et donc il faut mettre toute cette industrie, ces filières industrielles, d'ailleurs le fait de pouvoir signer cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle est attendue des filières, puisque eux derrière, c'est des investissements en espérant que les appels d'offres vont arriver rapidement.
Mmh. Alors, lors de ce débat sur la souveraineté énergétique, hier à l'Assemblée, vous avez dit, je vous cite, « Cette Assemblée tient le destin des prochaines générations entre ses mains. Il est essentiel de se le rappeler. Les discussions que nous avons aujourd'hui auront un impact sur notre avenir et celui de nos enfants, puisqu'il s'agit de parler de la politique énergétique de la France. Donc, un enjeu aussi important peut-il être tranché par un simple décret sans le vote des parlementaires?
Alors, c'est un peu limitatif, un simple décret. D'abord, le document est assez fourni et il a fait 4 ans de concertation. Moi, j'y étais depuis le début en tant que parlementaire. On a fait des groupes de travail, soit avec les parlementaires, le ministère évidemment, et l'ensemble de l'écosystème, les fédérations, les associations, pour trouver quel serait le plus juste équilibre. Ensuite, il y a eu un document qui est sorti, qui a été soumis à concertation à l'automne. C'est moi qui l'ai relancé en tant que ministre. Puis, reconcertation.
Vous voulez dire que la concertation a eu lieu avant le décret?
Bien sûr, évidemment. Oui. Évidemment. Et ces concertations,
et
ces concertations ont fait remonter un certain nombre de cahiers d'acteurs. Sauf que cette PPE, elle datait quand même de 2023. Vous savez, il y a eu quelques flottements politiques en 2024 qui ont retardé. Et donc, elle l'était par rapport au contexte, elle nécessite, et ça je l'avoue, elle nécessite d'être réajustée. Mais c'est du réajustement de trajectoire. C'est-à-dire, on voulait faire 18 gigawatts d'éolien en mer. Même les filières nous disent, on ne va peut-être pas réussir à se structurer pour pouvoir y arriver dans les temps qui sont donnés. Donc on est capable de se dire qu'est-ce qui est réaliste. On a vu l'hydrogène revu également à la baisse, mais il faut conforter l'ensemble des industriels et bien évidemment les Français. Nous savons où nous allons sur plusieurs décennies. Ouais,
mais il y a la situation économique aussi qui compte, qui n'était pas la même qu'en 2023.
Évidemment, la situation économique et de savoir comment est-ce qu'on mobilise les fonds. C'est la discussion qu'il y a entre l'État et EDF aujourd'hui pour savoir comment vont se répartir.
EDF fragilisé un peu parce que le patron, c'est plus...
Oui, alors Luc Rémont a effectivement fini sa mission de remettre le parc nucléaire de base en route, puisque je vous rappelle qu'il avait été mis à mal au moment de la corrosion sous contrainte. On avait perdu plus de la moitié des réacteurs. Mais effectivement, il faut se projeter sur le nouveau nucléaire et faire en fait une espèce de transition, ce qu'on appelle une falaise. C'est-à-dire que d'ici 2040, on va avoir une chute de la production nucléaire parce que nos réacteurs sont vieillissants. Certains, on va pouvoir les pousser à plus de 60 ans. On est en étude technique et c'était moi qui avais demandé à avoir ces études et c'est inscrit dans la loi. Mais également, il va falloir faire monter en gamme le nouveau nucléaire. Et là, pour avoir faire face à ce trou, les énergies renouvelables sont là et peuvent nous sauver.
Vous évoquiez, Olga Givernet, il y a quelques instants, les flottements qu'on a connus, c'est l'expression que vous avez employée, en 2024, notamment depuis juin, depuis la dissolution. Précisément, est-ce qu'il n'y a pas une question politique à se poser qui serait de savoir si ce gouvernement, qui, comme le précédent auquel vous avez appartenu, est fragile, qui va cas à cas, est-ce que ce gouvernement est légitime pour prendre des décisions d'une telle ampleur ?
Alors légitime, oui. D'ailleurs, depuis 2022... Et les
légitime politiquement, institutionnellement, il n'y a pas de doute.
Non, mais oui, et évidemment, parce que d'abord, il y a une continuité des différents gouvernements sur le sujet. Et lorsqu'on a une implication aussi large des acteurs de la filière, eh bien oui, je crois qu'il l'est. Il faut qu'il poursuive et atterrisse d'ici juin. Et d'ailleurs, il y aura une proposition de loi sénatoriale que j'avais menée au Sénat et qui doit arriver... à l'Assemblée nationale, qui pourra encore conforter par un vote, je le souhaite. J'espère que l'Assemblée nationale sera suffisamment responsable vis-à-vis des attentes des Français. Mais oui, le gouvernement, c'est ce qu'on attend, c'est qu'il agisse et qu'on ne tergiverse pas plus encore au-delà de l'été.
Alors il y a une question aussi, c'est est-ce que l'écologie n'est-elle pas sur le recul, hein ? Est-ce que selon vous, les gouvernements... ont mal orienté les politiques énergétiques avec une mauvaise écologie des normes.
Alors je crois d'abord que l'écologie a été prise en compte depuis de nombreuses années.
Mal organisée.
Il n'y a
aucune critique.
Il n'y a rien de pire que de ne rien faire, en fait. Donc on peut critiquer évidemment une orientation, mais là, en l'occurrence, il y a eu des lois qui ont été faites, notamment énergie-climat. Il y a plusieurs lois qui ont permis d'accélérer le nucléaire d'un côté, d'accélérer les énergies renouvelables. Justement pour faciliter les implantations et faciliter la vie des acteurs locaux, des élus pour cette implantation. Donc oui, quand on fait de l'écologie, ça veut dire que nous encadrons. Mais il faut encadrer intelligemment. Et ça, j'ai pu le voir de l'intérieur au gouvernement. On a tendance à rajouter des normes, Et on nous dit, mais c'est juste un contrôle de plus pour une entreprise. C'est juste 100 euros à payer pour une autre. Ça fait des empilements qui deviennent insoutenables pour les Français et pour les entreprises. Ça, il faut vraiment... qu'on arrive à contenir. Et le problème du flottement politique, c'est que justement, l'administration aura cette tendance à la boulimie normative. Et nous sommes là pour les contenir et poursuivre.
Une minute de silence a été observée aujourd'hui à l'Assemblée nationale en hommage à Aboubacar, ce jeune fidèle musulman qui a été sauvagement assassiné vendredi dernier dans une mosquée du Gard. Cette initiative qui avait été demandée par les partis de gauche avait dans un premier temps été refusée par les partis, par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Et puis finalement la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, est revenue sur ce refus. À quel moment s'est-elle trompée, en refusant ou en acceptant ?
Écoutez, je pense que on a de plus en plus de minutes de silence pour des événements aussi tragiques. Ils s'inscrivent aujourd'hui dans une tension autour des religions et avec la montée de l'antisémitisme. On parle également d'islamophobie. Enfin, il y a vraiment une tension et vis-à-vis des Français, il faut qu'on puisse le prendre en compte. Personne ne doit pouvoir se sentir en insécurité par ses croyances.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Elle s'est trompée en refusant ou en acceptant ?
Donc je crois qu'on avait une habitude de se dire c'est pas le type d'événement où il faudrait faire une minute de silence. Et très certainement qu'elle a eu d'autres arguments qui ont fait que...
une pression aussi,
Mais même parmi mes collègues dans l'hémicycle, ils étaient là, mais certains étaient toujours dubitatifs du fait d'avoir ce type de démonstration dans l'hémicycle. Moi, je crois très sincèrement qu'il faut montrer aux Français qu'on prend le sujet très sérieusement, mais il faut aussi éviter les polémiques et la récupération politique.
Alors, autre question d'actualité, François Bayrou va ouvrir des consultations sur la proportionnelle aux législatives. Alors, c'est un vieux serpent de mer de la politique française. Faut-il changer les règles une bonne fois pour toutes? Ou est-ce qu'on va continuer à consulter, à dire on va faire la proportionnelle et puis finalement, c'est un peu en attendant Godot qui n'est jamais venu?
Alors, il faut savoir que Gabriel Attal, nous, a mis un groupe de travail en place chez nous au sein du groupe Ensemble pour la République sur la proportionnelle sur les modes de scrutin, également le cumul de mandats, parce qu'on anticipait le fait que c'est quelque chose que nous portions depuis 2017. Sauf que les conditions politiques ont largement changé. En 2017, il y avait une majorité écrasante et on pouvait se dire que certains partis, qui pourtant faisaient un certain score au présidentiel, étaient très peu représentés au sein de l'hémicycle. Il s'avère qu'aujourd'hui, le scrutin uninominal à deux tours permet quand même d'avoir une représentation très, très clairsemée, on va dire, de toute la classe politique. Et en plus, ça donne cette instabilité.
Donc vous êtes contre?
Non, on se dit qu'en fait, dans le moment qu'il est aujourd'hui, à l'approche... Alors après... c'est l'intervention que j'ai faite ce matin en réunion de groupe. C'est jamais le bon moment. Il y a toujours d'autres urgences. Puis il faut y répondre. Donc je crois que les présidents de groupe vont discuter avec le Premier ministre pour évaluer d'abord quel est le mode, parce qu'il y a presque autant de modes de scrutin qu'il y a de fromage, disait un de mes collègues, Pierre-Alexandre Anglade. Mais je crois très sincèrement que vis-à-vis des Français, est-ce que c'est vraiment l'urgence de nous démontrer qu'en fait, on est sur des considérations de comment est-ce qu'on va être prochainement élu? On l'a déjà fait sur la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille.
Comment on va être élu, c'est comment le vote des Français est pris en compte. Parce que le scrutin proportionnel, c'est indiscutablement celui qui est le plus juste, celui qui témoigne de la manière la plus fidèle de ce qu'ont voulu exprimer les Français.
Tout à fait. Sauf qu'il y a aussi un attachement sur les élus locaux, l'appartenance à un territoire. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un national ou est-ce qu'on en fait un départemental ou même régional? Est-ce qu'on en fait que sur les gros départements ou aussi sur les petits départements? Et je vous dis, en fait, la discussion qui se fait autour de tout cela, en fait, il y a quand même une certaine crainte de perdre la capacité d'avoir une représentation très locale. C'est un débat, je ne dis pas qu'on est pour ou contre. Moi, la crainte que je peux avoir, c'est qu'effectivement, quand on change quelque chose, que la représentation des femmes, notamment en tant qu'élues, je les ai vues sur les scrutins des sénatoriales qui sont à la proportionnelle, il y a des tactiques pour exclure les femmes à la fin dans les résultats. Donc, je pense qu'il faut être précautionneux et voir si c'est tranché là dans les quelques jours. À ce moment-là, on s'y met vraiment et il faut atterrir d'ici septembre parce qu'on s'approche très certainement d'abord du scrutin des municipales. Ils ne seront pas concernés.
Et peut-être une dissolution.
Mais effectivement...
On a terminé. Voilà. Merci Olga Givernet.
Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur le plateau de France 24. Merci à Flore Simon et à Camille Néran. Merci Frédéric.
Bonne soirée à la semaine prochaine.
Bonne soirée à la semaine prochaine.